Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Monseigneur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous venons de fêter tous les saints, ce qui signifie, Monseigneur, que nous sommes nous aussi appelés à la sainteté.
Oui, le pape François vient de nous donner, il y a quelques mois, une exhortation apostolique, en disant que nous étions tous appelés à la sainteté. Et il commence son texte, surtout au numéro 16, en disant que la sainteté se réalise déjà sur terre, bien sûr, mais dans les petites choses de la vie. On n'a pas besoin d'attendre d'être notre mort pour être canonisé. Il y a beaucoup de saints dans le coin de nos rues, dans nos villages, qui sont ignorés, mais qui ne sont pas ignorés de Dieu. Et le jour de la Toussaint, nous avons lu le texte des Béatitudes, bienheureux. Ceux qui sont bâtisseurs de paix, bienheureux ceux qui sont aussi parfois meurtris par la vie, mais qui gardent confiance dans le Seigneur. Donc quelque part, les Béatitudes montrent que nous avons tous des manques, et en même temps, Dieu nous comble de sa grâce. Le chemin de sainteté dans le christianisme, c'est l'offrande de nos pauvretés. Je crois que Dieu seul est saint, mais nous participons, par sa grâce, à cette sainteté. Et je crois qu'il faut rendre grâce, sans doute que dans nos familles, dans notre arbre généalogique, il y a des saints qui ne sont pas connus, mais que Dieu connaît. Vous voyez, donc c'est... Le pape nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté et qu'il donne des exemples très, très concrets, la mère de famille qui s'occupe de ses enfants, de son mari ou inverse. Voilà, la sainteté dans le quotidien de la vie.
Voilà, l'appel à la sainteté, c'est pas forcément faire des choses extraordinaires.
Non, justement, les saints, ce sont ceux qui ont fait peut-être de l'extraordinaire, mais avec l'ordinaire de la vie. Et on dit toujours que la petite Thérèse, elle a fait avec des gestes quotidiens, ne serait-ce que ramasser une aiguille, dit-elle avec amour, mais elle ramassait un tablier d'une religieuse qui l'a laissé toujours tomber au lieu de l'accrocher. Elle le faisait avec amour. Vous voyez, c'est dans les petits détails. Au fond, Thérèse nous montre que ce chemin de la sainteté qu'il est à la portée des petites âmes, elle dit, c'est-à-dire de tout le monde. Voilà.
Alors ça, c'est pour la fête de tous les saints. Et puis, il y a le 2 novembre aussi, il y a eu le 2 novembre, où on a prié pour les défunts de nos familles. Pourquoi est-ce important de prier pour nos défunts?
Oui, parce que dans ce monde de Dieu, il n'y a pas d'individualisme. C'est pas chacun qui se sauve pour lui-même. À la différence de notre société, peut-être, que nous connaissons, l'individualisme. Il y a pas nous appelons ça la communion des saints. On se porte mutuellement, c'est-à-dire que peut-être ceux qui nous ont précédés, qui sont arrivés à la sainteté, nous continuent de nous aimer, de nous soutenir. Et puis il y en a d'autres qui ont encore un chemin à faire, de purification. Et ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre soutien. Et je pense qu'un certain nombre de ceux qui nous ont quittés font aussi appel à nous. Et tantôt ils nous protègent et tantôt ils ont besoin de nous. Donc nous prions le 2 novembre pour les défunts, en particulier de nos familles. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que les gens vont dans les cimetières le jour du 1er novembre. En même temps, c'est vrai que dans nos paroisses, on permet à tous ces gens qui viennent dans nos cimetières souvent d'offrir une bougie, de rallumer au fond la flamme de l'espérance, de la foi au cierge pascal, et de le mettre sur une tombe. Il y a une bougie qui continue de veiller, montrant que dans la famille, on est venu prier aussi sur la tombe du défunt. Donc quelque part, nous prions pour nos familles, les défunts de nos familles, mais nous prions aussi pour tous les défunts, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de famille.
Alors, Monseigneur, vous êtes rentré il y a un peu plus d'une semaine de pèlerinage à Rome et à Assise avec 230 jeunes confirmés et 50 animateurs. Qu'est-ce que vous avez vécu durant cette semaine?
D'abord, il faut rendre grâce, je crois, à notre église diocésaine, à toutes nos paroisses, à tous les catholiques hein, qui permettent financièrement, mais aussi, je dirais, dans l'accompagnement, de vivre ce temps fort hein, qui est à Rome assise. Les jeunes ne pourraient pas partir s'il n'y avait pas l'aide de leur paroisse, d'abord financière. C'est vrai que tous ces jeunes ont eu un certain nombre d'initiatives, hein, ont vendu différentes choses. Il y en a même qui ont planté un certain nombre de fleurs, etc., pour les vendre, vous voyez, soit des tulipes ou autres, au moment de la saison. Hein. Ça montre qu'eux-mêmes prennent aussi leurs responsabilités, ils sont pas désassistés. Et puis en même temps, il y a la présence de ces 50 animateurs, une douzaine de prêtres du diocèse. Je trouve ça admirable.
Oui, c'est, hein, c'est
que 12 prêtres les accompagnent. Hein, on vit vraiment l'expérience du peuple de Dieu tel que le pape François le souhaite. C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a tous les âges. Hein, il y a des consacrés, il y a des prêtres diocésains. Et l'évêque, et on est là tous ensemble avec les jeunes et bien sûr les adultes. Or, c'est une expérience unique, d'abord sur les lieux, hein, les premiers chrétiens, quand on arrive et qu'on descend du bus et que on va aux catacombes, je peux vous dire que pour les jeunes, ils découvrent hein, que oui, être chrétien il y a presque 2000 ans, c'était difficile, oui. Douloureux, on connaissait le martyr. Bon, ensuite... On prend cette Via Appia sur laquelle Paul et sans doute Pierre ont marché avant d'être jugés et condamnés à mort. Hein. Donc là aussi, c'est François d'Assise, Claire d'Assise, ces grands témoins de la foi. Et puis cette rencontre avec le pape, il faut le reconnaître, nos jeunes qui étaient au premier rang,
oui, ils ont eu beaucoup sentent de chance que encore.
Ils ont beaucoup de chance, ça c'est vrai. Hein, l'année dernière, il en avait fait monter aussi
quelques-uns dans sa
mobile.
Bon, ça peut pas être tous les ans, c'est sûr.
Ça peut pas être tous les ans, non, ça c'est sûr. Et en même temps, ils sentent que cet homme, ce pape, il aime les jeunes. On ne peut pas les tromper. Hein, et quand il leur a fait signe, quand ils ont été nommés, il leur a fait signe, ils se sont mis à crier, à dire le pape, etc. Hein, donc, à chanter. Et je trouve que c'est aussi un moment fort pour eux de sentir que cet homme, ce pape, ben, il a confiance dans cette jeunesse. Parce que pour eux, c'est important qu'on soit auprès d'eux. Je passe par une visite rapide, vous voyez, de quelques heures.
Vous y êtes plusieurs jours.
C'est être avec eux, marcher avec eux, faire les mêmes choses qu'eux. Mm-hmm. Voilà, pour eux, ça veut dire qu'ils ont de l'importance.
Alors ce pèlerinage, c'est vraiment un temps fort hein, pour ces jeunes confirmés. Mais la question qu'on se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'on peut leur proposer après?
Alors voilà, il y aura grâce à la Pasto Jeune 14, on a cette chance d'avoir quand même des adultes qui s'y investissent au sein des paroisses, au sein du diocèse. Il y a des rencontres régulières. Vous voyez, par exemple, il va y avoir le concert de Glorious. Il y aura plus de 1000 jeunes qui seront là.
Oui. Hein.
Ils ont besoin de la musique, ils ont besoin de ça. D'autres, un week-end auquel je les encourage à participer, au mois de janvier, pendant 2 jours, qui est beaucoup plus un week-end spirituel, de ressourcement. Et puis ensuite, il y a des démarches, etc., tout au long de l'année. Il y a aussi, bien sûr, leurs aumôneries. Donc, nous ne serions pas en capacité... je dirais, de répondre à leur attente s'il n'y avait pas des adultes aussi qui les accompagnaient. Et c'est là qu'il faut se réjouir de voir que peu à peu, ils font un chemin. Alors c'est sûr qu'ils vont pas forcément toujours rejoindre nos communautés. Mais ils apprécient aussi de voir qu'il y a leurs grands-parents, etc., qui n'ont pas abandonné. Combien de fois je leur ai dit... oui, vous dites que dans les paroisses ou dans les églises, il n'y a que des vieux. Mais eux, ils ont tenu bon. Est-ce que toi, tu vas tenir bon? Et ça les marque. Ils rendent grâce aussi. Ils sont reconnaissants de voir que ben, les anciens, ils tiennent bon. Ils ont envie de tenir bon aussi. Ils savent que ça sera difficile.
Mi-novembre, vous proposez une retraite de 3 jours au foyer de charité de Tressin pour les prêtres et les laïcs au service de l'église diocésaine. Alors, Monseigneur, pourquoi cette proposition?
Alors, on revient là à ce que le pape nous demande, c'est-à-dire qu'un Un diocèse, c'est énorme, mais il faut aussi prendre des temps de vie fraternelle. Donc, ces 3 jours que nous allons vivre à Tressin, au foyer de charité, il y a à la fois, c'est vrai, des prêtres, des diacres, des laïcs, des consacrés, c'est chacun dans son état de vie, dans sa mission au sein de l'Église diocésaine, est invité à se retrouver. D'abord, dans un temps fort de vie fraternelle. On se connaît pas forcément. Vous voyez, déjà dans une paroisse, c'est loin d'être évident. C'est bien moins évident encore dans un diocèse. Or, aujourd'hui, je dirais, le découragement vient souvent de l'isolement. Je le redis sans cesse. Un prêtre isolé, c'est un prêtre en danger. Un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. On ne tiendra pas si on s'isole. On a besoin, comme dans une famille, de se soutenir les uns les autres. Prenons exemple sur ce qui se passe en Afrique. Les communautés ecclésiales de base, les fraternités, etc. Nous avons beaucoup à recevoir de nos frères et sœurs africains. Là-bas, l'Église, c'est une famille. On définit l'Église comme une famille. Notre diocèse, c'est d'abord une famille. Quand est-ce que chacun dans un diocèse, dans cette famille, doit prendre sa place, doit apporter, et pas tout uniquement en profiter et recevoir, il doit aussi donner. Là, ça va être un temps de ressourcement spirituel. Parce qu'aujourd'hui, la prière, la lecture de la parole de Dieu, le temps de silence, le partage aussi, mais pas parole qui s'envole, vous voyez, ça n'a rien à voir avec nos textos qu'on envoie tous les jours. C'est en profondeur, pouvoir parler de ce qui touche notre cœur, notre foi. On a rarement l'occasion, entre chrétiens, d'échanger sur à la fois nos doutes, nos découragements, mais aussi nos joies. Donc c'est un temps, je dirais, de présence de l'Esprit-Saint. On le vérifie d'abord par ce que l'on reçoit des enseignements. Ça sera Monseigneur Le Sault, oui, qui est évêque du Mans, qui vient nous parler un peu de la joie de l'Évangile, du texte du pape François, qui nous aide aussi à approfondir ce message. Puis en même temps, on se retrouve, je dirais, pour des temps de prière, pour des temps de partage, puis pour des temps de convivialité. Oui. Donc c'est des moments essentiels. Moi, je trouve que chaque année, si on va être 130, 140, peut-être 150, je n'en sais rien.
Ce qui est déjà une bonne participation, c'est très beau.
Tout à fait. Mais parce que je sais bien, c'est en semaine, mais de toute façon, on va le mettre le week-end, il y aura encore moins de monde parce que les gens sont pas libres le week-end. Alors, je sais bien que il faut parfois prendre une journée de congé et ce n'est pas facile, pour les gens qui travaillent. Bon. On fait appel plutôt, je dirais, à des gens plus disponibles, c'est vrai, c'est des reproches qu'on nous fait, je les comprends, mais en même temps, je dirais, ces 3 jours sont des temps fondateurs pour qu'il y ait une véritable fraternité au sein de notre Église diocésaine.
Au mois d'octobre a eu lieu la rencontre économique des paroisses à la maison diocésaine. C'est un moment important où l'on présente la situation économique du diocèse. Le diocèse se porte-t-il bien?
Le diocèse, comme tous les diocèses de France, essaie de stabiliser ses dépenses. Nous avons diminué nos dépenses, on pourrait dire, de fonctionnement, de les réduire, pratiquement de 70% en 8 ans. Vous voyez, donc, depuis que je suis arrivé, donc grâce aussi à toute l'équipe de l'économa diocésain, nous essayons de grouper nos achats, nous essayons de réduire le fonctionnement, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de choses, les fluides, vous savez, tout, on a du mal à imaginer, tout ce qui peut, dans les paroisses ou autres, si on fait des achats en commun avec un organisme qui s'appelle le CEDRE aujourd'hui, si vous voulez, on a aussi quand même des avantages.
De réduire les factures, parce que le diocèse, c'est quand même une entreprise.
Enfin, exactement.
Il y a quand même un peu le fonctionnement, en tout cas.
Il y a plus de 80 personnes aussi employées, équivalent temps plein, ça veut dire plus de 140 avec des temps partiels, etc. Plus les prêtres. Alors moi, je dis un grand merci aux donateurs, même s'ils diminuent, même s'ils vieillissent. Et je suis heureux aussi de voir que même les Parisiens, qui sont nombreux à venir dans nos paroisses durant l'été ou durant l'année, participent. Ils représentent 14% du budget, hein, de notre diocèse et de l'apport, en particulier au denier de l'Église. Oui. Donc je les remercie. Je remercie tous ceux qui participent. Alors nous essayons de aussi une campagne, voyez, sur les legs. Beaucoup de catholiques donnent à des associations. C'est très bien. Des associations humanitaires. Faut pas qu'ils oublient l'Église. Nous vivons.
Effectivement, on le voit, l'Église est un petit peu, on pourrait dire, en concurrence avec d'autres associations.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui pourrait faire que les gens donnent plutôt à l'Église ou prioritairement à l'Église?
Je pense que c'est aujourd'hui, on est minoritaire d'abord, nous les catholiques, dans cette société. Hein. Oui. L'État doit aussi participer. Mais un catholique, le legs, il fait partie de ses convictions profondes. Oui. S'il ne donne pas à l'Église, c'est quand même dommage. Alors il va peut-être pas tout donner, c'est pas déshériter ses enfants, c'est évident. Hein. Mais le legs fait partie aujourd'hui d'un moyen pour aider ce diocèse à vivre. Or, ce sont majoritairement nos frères prêtres décédés qui n'ont pas des fortunes, mais qui donnent à l'Église diocésaine. Vous voyez, j'attends que les catholiques de ce diocèse soient un peu plus généreux au niveau des legs et qu'ils se posent la question, à ma mort, sans, je dirais, déshériter mes enfants ou mes petits-enfants, quelle est la part que je donne à l'Église? J'ai quand même beaucoup reçu de cette église diocésaine, de la part de ses prêtres, etc., j'ai à rendre, et sinon devant Dieu, mais j'ai à rendre une partie de ce que j'ai reçu. Hein, donc, pour l'avenir en particulier de l'église dans nos diocèses, et nous insistons beaucoup sur cette campagne de legs.
Oui, et puis effectivement, alors vous l'avez souligné également, l'effort qui est fait dans les paroisses pour faire des économies, maintenir les charges et augmenter également les ressources à travers le denier ou à travers d'autres prestations. Ce que je veux souligner, c'est que cet effort financier, en tout cas, c'est un effort porté par tout le diocèse, pas uniquement la curie d'Economa, mais les services centraux, comme on le dit, mais tout le diocèse, toutes les paroisses.
Ça, c'est ce qui me réjouit. Et peu à peu, il y a une prise de conscience d'une solidarité, même entre paroisses, l'entraide, etc. Hein, donc, c'est une prise de conscience d'une solidarité. Hein, et si une paroisse va mal, elle doit être aidée. Mais parfois, c'est le diocèse lui-même. Hein, nous avons la pastorale des jeunes, sans l'aide du diocèse, la pastorale des jeunes disparaît.
Vous voyez, oui.
Ces jeunes ont pu venir à Rome, à Assise, et de même à Lourdes, c'est parce qu'ils sont aidés par leur paroisse et aussi par le diocèse.
Oui.
Donc merci à tous ceux qui permettent à cette église de continuer de préparer son avenir et de pas regarder uniquement dans le rétroviseur.
Oui, parce que effectivement sur le terrain, les gens ils voient ce qui se passe, ce qui se vit dans les paroisses, mais voilà, il y a aussi tout ce qui,
bien sûr,
tout le concours qu'apporte le diocèse. Merci Monseigneur.
Les vœux, toi mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vient le temps des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour pour toi célèbre.
L'actu du diocèse sur RCF avec Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bailleul-Lisieux, au micro d'Alexandre Barbet.
Le dernier sujet de notre entretien, Monseigneur, au moment où sera diffusé donc cet entretien, vous serez à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France. Alors j'imagine qu'une partie de vos débats tournera autour des récents drames de suicide de prêtres, je pense notamment à ce qui a eu lieu à Rouen et très récemment aussi à Gien.
Oui, alors, si vous voulez, la crise que nous traversons, bon, c'est pas la première hein, que l'Église traverse une crise. Mais toute crise, je dirais, peut être un temps de purification. Hein. Je crois qu'il faut, au-delà, même si c'est très, très, très minoritaire, il faut le redire, parce que les gens ont l'impression que, parfois, des prêtres, etc., on se fait huer ou autre en croyant que c'est massif. Non, ça représente dans certains cas à peine 1%, hein, parfois. Bon, mais peu importe, c'est un drame et je dirais, aujourd'hui, on détruit une personne, un enfant. Ça fait plus de 50 ans que j'accompagne des jeunes, je peux vous dire, vis-à-vis de l'adulte, vis-à-vis du prêtre, ils ont une confiance et on n'a pas le droit. On démolit un jeune, on le détruit, on détruit un enfant. Quand on voit la confiance qu'il a vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un prêtre, vis-à-vis d'un adulte. Et ça, c'est grave.
Oui, mais alors là, ce qui est encore plus dramatique, je dirais, dans les cas des suicides de prêtres à Rouen et à Gien, du père Sébé et du père Fumery, c'est que il n'y avait pas d'agression sexuelle caractérisée sur les jeunes. Il n'y a même pas eu de dépôt de plainte pour le père Seb. Et donc il y a tout un climat de suspicion.
Alors, vous avez raison.
Vis-à-vis des prêtres.
Et c'est ça qui est très difficile.
Ça les pousse très loin, voire trop
si
loin.
Si vous voulez, on a tous des périodes de grande fragilité. Hein, je pense que là aussi, ce climat de suspicion, hein, il y a un lynchage médiatique. Hein, ça, je veux dire, c'est pas les autorités judiciaires, c'est pas les autorités politiques, c'est certains groupes qui sont manipulés. Hein, et vous savez bien que dans notre pays, quand on peut s'en prendre à l'Église catholique, on ne fait pas vis-à-vis de l'islam, mais quand on peut s'en prendre à l'Église catholique, on ne la rate pas. Ça, c'est l'anticléricalisme. Mais ça, c'est très français qui revient quand même très fréquemment. Mmh. Hein. On n'est pas forcément anti-religieux en France, mais en tout cas, on est quand même assez facilement anti-catholique. Mmh. Parce que c'est une institution, ben, je dirais comme toutes les institutions, mais qui vous remet en cause. Et vous savez bien que ce monde des grands médias n'a pas de contre-pouvoir. Et ça, c'est le drame. Les politiques disent la même chose, hein. Vous savez, les responsables économiques, tous ceux qui sont en responsabilité, dès qu'on est en responsabilité, c'est une tête à abattre au niveau médiatique. Et ça, c'est le contexte aussi de nos écoles de journalisme. Enfin, c'est très profond, mais il faudrait un autre débat là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que dans une période de grande fragilité, des prêtres qui sont victimes parfois de diffamation, hein, ben, en viennent à ce suicide. Enfin, c'est terrible, hein, mais voilà. Ensuite, il y a quand même la question de la solitude. Hein. Je crois que, pour moi, il y a certainement, dans l'Église catholique, à revoir le statut du prêtre diocésain. Pour moi, il est trop comparable à un travailleur indépendant. Et donc, il y a une fraternité à instaurer entre les prêtres. Ça veut dire, si je deviens prêtre, je m'engage dans une famille presbytérale, sacerdotale, qui est celle d'un diocèse. Je m'engage à soutenir mes frères prêtres, et je m'engage aussi à être soutenu, à participer aux différentes rencontres entre prêtres, à me retrouver régulièrement autour d'un repas, avec d'autres frères prêtres, et puis aussi, aujourd'hui le pape nous le rappelle, avec des laïcs, avec des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des... Vous voyez, c'est ce que nous avons vécu à Rome et Assise. C'est ce que devrait devenir l'Église aujourd'hui ou de demain.
Une Église de fraternité.
C'est une Église où tout le monde a sa place, où les hommes et les femmes, qu'il y ait davantage de femmes dans nos... Je dirais, il y en a deux au Conseil épiscopal, il y en a une qui est chancelier, ici à la Maison diocésaine, c'est une... Il faut que les femmes aient davantage de place, de responsabilité, parce qu'elles nous aident aussi. Je dirais, on a besoin de cette mixité. Vous voyez, dans la vie, nous n'avons pas forcément de femmes ni d'enfants, nous sommes des célibataires, mais on peut se replier sur soi-même. Et donc, quelque part, cette église-famille, pour moi, l'image que je reprends toujours, qui vient en particulier d'Afrique, elle est essentielle. Et je peux vous dire qu'on est heureux quand on vit ensemble cette expérience de prier ensemble, prier avec des laïcs, prier avec d'autres prêtres, prier avec des diacres, des religieux, des religieuses. Donc, trop de prêtres sont isolés. Et pour moi, il y a là certainement à revoir au niveau canonique. Et on est, le Concile Vatican II a beaucoup insisté dans un Presbyterorum Ordinis numéro 8 sur la fraternité entre les prêtres, mais c'est pas passé dans le droit canon. Un prêtre, il va pas commencer le jour de son ordination à dire « Je m'engage dans la fraternité presbytérale du diocèse. » Ça veut dire que je m'engage à devenir frère. Et là, il y a cette crise que nous vivons, pour moi, c'est la crise aussi, on voit les conséquences de l'individualisme. Et ça, je pense que c'est douloureux, mais de toute crise peut sortir aussi la présence de Dieu. On dit que Dieu inscrit toujours sa présence dans les failles de l'histoire humaine. Et donc j'espère que à travers les drames que nous vivons, ben, l'Église va non seulement balayer devant sa porte, c'est ce qu'elle essaie de faire, par rapport au passé récent, mais elle va essayer aussi peut-être d'envisager une autre manière de vivre ensemble, prêtres, diacres, laïcs, consacrés. Et voilà ce que peut-être que je souhaite en tout cas.
Merci, Monseigneur, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.